D'ailleurs, tu as amorcé la deuxième table ronde, c'est un peu, bon, entamé la question du bilan, du bilan d'ouverture et de la libéralisation du marché. Alors, je ne sais pas, peut-être, vous reprenez on reprend le même ordre comme ça. Alors, sur ces deux aspects quand même, hein, c'est du point de vue du consommateur, je crois qu'il y a une chose importante qui a été dite, c'est l'ouverture du marché, ça redonne du pouvoir au consommateur. Là, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais est-ce que, ça, donnant du pouvoir au consommateur, est-ce que quand même quelque part, le citoyen n'y perd pas? Excusez-moi de faire cette distinction un peu stupide, hein, mais le citoyen, c'est à la fois la question de la péréquation, mais c'est aussi tous les systèmes qui sont mis en place sur l'égalité d'accès, etc. Donc, est-ce que là-dessus, le marché, quel bilan vous faites? Et puis, deuxièmement, peut-être sur l'efficacité du marché, de l'ouverture, en termes écologiques, en termes environnementaux.
Je peux peut-être commencer par poser une question à la salle. Qui a changé de fournisseur? Quatre personnes.
Individuellement ou en tant qu'administration? Ah oui.
J'ai oublié mes leaflets.
Deux personnes à la tribune, deux dans la salle. On doit trouver,
je sais pas. Et puis c'est dans la salle, c'est plutôt dans le genre voyeur, ce que je choisis. Hein.
Alors.
Encore de regarder.
Finalement, on est dans une configuration un peu particulière parce qu'on est quand même, si on fait le pourcentage ici, c'est largement au-delà de ce que l'ouverture du marché a fait en 2 ans. Si on se fie aux chiffres donnés par le distributeur ERDF et ceux de la CRE, on doit être aujourd'hui pour l'électricité à quelques 1,2 million de ménages qui ont changé de fournisseur sur un total de 29 millions. On doit approcher les 3-4% en 2 ans à ce rythme-là. Je vous laisse calculer le temps qu'il faudra pour que tout le monde ait changé de fournisseur. Pour le gaz, c'est un petit peu plus glorieux, on doit être à, je ne sais plus Christophe, 700 000 sur un total de 11 millions.
C'est environ 800 000, dont 600 000 chez EDF.
D'accord, voilà. Et c'est la deuxième chose, sur les 1,2 millions et sur les 800 000, il y en a un bon tiers, voire la moitié, qui sont passés d'EDF à GDF Suez et GDF Suez à EDF pour, je dirais, la très forte majorité d'entre eux. Ceux qui ont fait ce passage, ils ne se sont toujours pas rendus compte, ils pensaient être chez EDF-GDF. Donc, bilan vraisemblablement mitigé de l'ouverture du marché, qui ne satisfait pas les fournisseurs alternatifs comme Poweo, Direct Energy, etc., qui constatent qu'ils dépensent beaucoup d'argent à faire des leaflets ou des campagnes sur les panneaux 4x3 pour un résultat, somme toute, médiocre, qu'ils se retrouvent. Parce qu'ils n'ont pas, si vous voulez, la facilité historique de « Allô, je viens de changer de maison, est-ce que vous pourriez me mettre le gaz ou l'électricité ?» Ils se retrouvent dans les situations où ils envoient des commerciaux faire des démarchages à domicile et que le moindre dérapage de ces commerciaux se retrouve sur un forum qui arrive tout de suite en tête des recherches que vous faites sur Google. Pour mémoire, Google vient de gagner devant le tribunal administratif de Paris, je crois. Direct Energy vient de gagner devant Google devant le tribunal administratif de Paris. Parce qu'à un moment donné, quand vous tapiez « Direct », Google suggère vous proposer Direct Energy, vous arriviez à Direct Energy sans le E, et là on vous proposait Direct Energy arnaque, Direct Energy plainte de consommateurs, Direct Energy facture trop élevée, etc. Donc Direct Energy a demandé à Google d'enlever ça de Google Suggest, mais c'est aussi une façon de montrer que le marché pour les fournisseurs alternatifs est un marché difficile. Et pour les consommateurs, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Certains qui ont fait le choix de passer chez Google, Direct Energy, GDF Suez, etc., qui l'ont fait sciemment, se sont dit je vais gagner 5-10% sur ma facture annuelle, et c'est le cas. Pour ceux qui sont passés chez GDF Suez dans des conditions commerciales parfois douteuses, voire plus que douteuses, c'est pas forcément très satisfaisant. Surtout quand GDF Suez fait basculer ses propres usagers aux tarifs réglementés vers des offres à prix de marché qui en font des clients, des offres à prix de marché fixes pendant 2 ans. Ceux qui ont souscrit les offres à prix de marché fixes de GDF Suez en septembre dernier et qui depuis voient se multiplier les baisses des tarifs du gaz avec des tarifs qui sont bloqués pour 2 ans peuvent évidemment se mordre les doigts. Et, autre incidence de l'ouverture du marché, on a séparé le vide de l'open link, les activités de fourniture et de distribution, avec la création de 2 filiales, ERDF et GRDF. Qu'est-ce que ça a créé pour le consommateur? D'une part, EDF-GDF, les banderoles, les rouges qu'on connaissait disparaissent, mais surtout, ça a généré du bordel. des factures trop élevées, des gens qui se retrouvent avec des prélèvements de 400, 500 euros tous les deux mois, alors qu'avant ils payaient 60, 70 euros, qui appellent EDF, GDF et qui leur dit « Ah désolé, je suis le distributeur, je ne peux pas gérer ça, pas votre fournisseur, qui est mon fournisseur ?» Et là ils sont obligés de dire toute la liste des fournisseurs. Le truc est totalement ingérable. La FNCCR a créé, lors de l'ouverture du marché, un site d'information pour les consommateurs qui s'appelle energie2007.fr et sur lequel il y a un forum. Et donc je prends le message de Molik qui s'est inscrite il y a deux jours et qui m'écrit, enfin qui écrit sur le forum, « Bonjour, j'ai emménagé le 1er août 2009 dans mon nouvel appartement. J'ai fait une demande de création de contrat auprès de GDF début août, relancée plusieurs fois fin août car il ne s'est rien passé. Et début septembre, on leur indique que c'est bon. Ils m'appelleront sous 48 heures. » Ils ne m'ont jamais rappelé. Le gaz a été coupé hier, après les avoir appelés. Ils me disent que mon contrat n'a pas été créé, que mon appartement n'existe pas et que la personne n'aurait jamais dû me dire que c'était bon, car il leur manque le numéro PCE. Qu'est-ce que c'est que le numéro PCE figurant sur la facture de l'ancien locataire, qui est évidemment plus joignable? Des messages comme ça, vous en trouvez.
Ça arrivait du temps du monopole, non?
Ça arrivait du temps du monopole, mais les gens ne s'en rendaient pas compte. Et
oui, c'est un progrès.
À l'époque, c'était EDF, GDF, c'était formidable. Sauf que depuis. Ça arrive. Il faut dire aussi qu'il y a des règlements qui font que c'est plus possible pour des salariés au sein de ces anciennes maisons, qui sont les salariés de GRDF et de GDF Suez côté fourniture, de RDF et de DF fournisseurs, ils n'ont plus le droit de communiquer entre eux puisque ce sont des maisons non pas concurrentes, mais liées par un contrat différent. ERDF doit faire l'acheminement de l'électricité pour tous les fournisseurs, aussi bien pour Pau et Eau, que pour GDF 16 ou EDF. Donc ils n'ont plus le droit de se parler entre eux, ils sont obligés de mettre des systèmes informatiques bien séparés. Dans le cas de GDF 16, la mise en place du nouveau système informatique s'est traduit par la perte, selon ce qui se murmure dans les colloques où se retrouvent les informaticiens, les boîtes de l'ESS2I qui ont géré ça, avec quelque chose comme 5 à 10% de perte de données. C'est pas énorme, vous mettez ça sur une base clientèle de 11 millions de personnes. Vous perdez ici une adresse, vous perdez ici une référence sur les données de consommation de l'année précédente. Et donc, vous vous retrouvez avec des éléments arbitraires où, brusquement, on met 400 euros de prélèvement à quelqu'un qui a juste une cuisinière à gaz et qui est dans l'incapacité de joindre son, son fournisseur pour régler ça.
J'ai cru comprendre.
Je précise que la FNCCR n'a pas mis en concurrence,
voilà,
et qu'elle n'a pas changé de fournisseur parce qu'elle est attachée au tarif réglementé. Et qu'on considère que l'ouverture du marché n'a pas apporté grand-chose aux consommateurs.
Oui, vous avez été assez clair là-dessus, mais il me semble que c'est une position que vous avez depuis le début, d'une certaine façon.
Si vous voulez, on est comptable du service public de fourniture. Le service public de fourniture pour l'électricité, pour le gaz, c'est un peu plus compliqué, il y a un règlement de service, mais pour l'électricité, les tarifs réglementés, c'est la moelle épinière, si vous voulez, c'est 99% des services publics de fourniture. Donc on va faire l'apologie du marché. On est parfaitement en phase avec Christine Lagarde qui, je le rappelle, le 30 juin 2007, la veille de l'ouverture du marché, a dit « Demain, les marchés s'ouvrent à la concurrence, surtout restez bien au tarif réglementé d'EDF. »
Là, c'est l'actionnaire d'EDF qui
parlait. On continue dans le même ordre, je pense que voilà, il y a un petit pavé dans la mare, mais je ne sais pas si
non,
c'est vraiment provocateur.
D'ailleurs. Non, mais en plus, pour moi, il y a trois sujets dans le marché, je veux dire. Il y a le prix. Il y a le prix, il y a la fonctionnalité et il y a la vertu. Voilà. Le prix, à la réponse au prix, je parle et en tant que consommateur, en tant que représentant des collectivités locales, globalement, circuler, il n'y a rien à voir. Enfin, je veux dire, globalement, si on joue sur 5%, sur une facture de quelques euros, on ne peut pas conseiller aujourd'hui d'aller dans le marché pour l'économie qui a été réalisée, en tout cas pour des clients de la taille de collectivité, etc. Deuxièmement, c'est la fonctionnalité du nouveau système. Là, je suis obligé de dire que ce que dit Jean-Marc, c'est la réalité, c'est le bazar. Moi, je peux vous donner des exemples de collectivités locales qui se sont retrouvées à crouler sous les contrats, alors que je vous ai dit ce matin, il y a des collectivités qui ont plutôt 300 ou à 3000 contrats. Et bien, pour des raisons un peu obscures, elles se sont retrouvées avec 8000 à 10 000 contrats, parce qu'on a sous-coupé en deux la part d'abonnement et la part de la fourniture, donc d'un coup, est arrivé tout en double. Bon.
Cela dit, troisième élément, alors au passage, petit aparté sur la deuxième partie, je crois quand même ce qu'il vient de dire un peu rapidement est important, c'est qu'il y avait aussi des dysfonctionnements dans le dispositif initial. Simplement maintenant, c'est en pleine lumière. Les problèmes de facturation, des erreurs, et ça existait aussi. Simplement là, maintenant, c'est en pleine lumière parce que le consommateur, il parle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est responsabilisé, il est attentif, au moins partiellement, et il parle. Et il dit là, je ne comprends pas ce qui s'est passé, alors qu'avant, ça coulait beaucoup plus. Troisième dimension, et c'est celle qu'on a défendue pendant longtemps, c'est de dire la capacité de devenir quelqu'un qui a une demande et qui peut faire évoluer sa demande et qui peut définir sa demande doit permettre de faire évoluer le monde de l'énergie. Voilà. En disant, moi je veux une autre énergie que simplement un kilowattheure, etc. D'ailleurs, de ce point de vue-là, moi je suis obligé de faire une petite aparté sur le service public de l'électricité. Le service public de l'électricité, ça consiste à avoir de quoi s'éclairer, utiliser, ça c'est le point de vue d'amorce, et utiliser des équipements dont on a absolument besoin dans la maison et également dans le process industriel et qui ne peut être auquel ne peut répondre que l'électricité. Mais aujourd'hui, il y a un amalgame parce que l'électricité qu'on nous apporte, c'est aussi une électricité qui, de notre point de vue, peut être aussi mal consommée. Et auquel cas, on n'est plus dans le service public de l'électricité parce qu'un kilowattheure qui est mal utilisé, la boîte électrique, ça doit être la fée électrique. Un kilowattheure mal utilisé, c'est un kilowattheure qui ne va pas dans le sens des autres objectifs environnementaux de la France, en particulier la lutte contre le changement climatique, la baisse des consommations, etc. Et c'est là où, à mon avis, il y a aussi débat, c'est qu'on peut réfléchir sur la place de l'électricité, puisque le débat a l'air de s'orienter quand même très électrique, donc je reviens sur mon débat électrique, tant pis pour le gaz, ça sera un autre jour. Je crois qu'il y a quand même la question de la place de l'électricité et en quoi l'électricité rend un service d'intérêt général, est un service public, et en quoi il ne l'est pas. Et de ce point de vue-là, il faut quand même dire que... J'étais pas à Réunion, j'ai pas vu le film de Hulot. Je suis un petit peu gêné, mais si effectivement la conclusion du film de Hulot, au-delà du fait que je crois que la Fondation Hulot, parmi ses administrateurs et ses financeurs, il y a EDF, mais vous n'y voyez aucun procès, je me dis quand même, j'espère que Nicolas Hulot, dans sa grande sagesse, j'ai côtoyé à plusieurs reprises, ne dit pas que la solution c'est l'électricité, parce que d'abord ça n'a pas de sens de dire c'est l'électricité. Parlons en énergie primaire, que ce soit en origine ou en quantité, la question c'est de savoir quelles sont les énergies primaires qu'on utilise. Ensuite, l'électricité, comme chacun sait, c'est un vecteur, c'est une fée vecteur. Ça veut dire que aujourd'hui, on fait l'exemple, je vous donne l'exemple de la voiture électrique et de la voiture et de la voiture thermique. Aujourd'hui, le rendement d'un moteur thermique, c'est 25%. Aujourd'hui, le rendement d'une voiture électrique, si on tient compte du rendement de production d'électricité à partir forcément d'une énergie qui soit nucléaire, soit un combustible fossile, c'est aussi de l'ordre de 25%. Auquel cas, pour faire 100 km, on utilise à peu près la même quantité d'énergie primaire non renouvelable, que ce soit du nucléaire, d'ailleurs, le débat n'est pas là. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire l'électricité, c'est l'avenir par principe, parce que c'est l'électricité. L'électricité, ça n'est qu'un vecteur. La question est systématiquement comment on a fait l'électricité et pourquoi on utilise l'électricité. J'en reviens au débat. L'énergie primaire et l'énergie utile, c'est les deux questions à se poser. Comment on a produit l'électricité et est-ce qu'on l'utilise bien?
Luc, je prends une remarque dans la salle. Hein, Luc Babeuf, sans micro.
Il se trouve que j'ai
président du conseil
d'administration d'Aquitaine. Alors j'ai été invité à la présentation en avant-première à Bordeaux du film de Nicolas Hulot. Et je dois dire que je ne l'ai absolument pas reçu comme un spot de 2 heures en faveur du tout électrique. Parce que je crois qu'il faut faire attention à la nécessité de nuancer les choses. En revanche, quand tout à l'heure Pierre Radan a évoqué le statut un peu particulier d'amorce dans sa négociation, j'ai aussi à l'esprit que c'est quand même la Stiglitz qui m'a demandé un rapport sur la mesure de la performance, etc., et que ce monsieur s'est fait connaître par ses travaux sur le caractère asymétrique de l'information dont sont détenteurs les acteurs de marché. On en a parfaitement l'illustration à travers cette question-là. Et l'autre aspect, c'est que nous sommes aussi des consommateurs et usagers dans le téléphone. Le problème que vous évoquiez sur la régulation interne aux opérateurs, le dysfonctionnement qui ont toujours été existé, on le voit lorsqu'on avait une seule facture. À un moment donné, vous appelez Orange, ils vous disaient que ce n'était pas eux pour tel ou tel problème. Donc on se retrouve aujourd'hui dans cette situation-là. C'est-à-dire que le cloisonnement, la segmentation des opérations amène à des situations que je qualifierais d'intermédiaires d'invénérables. Et ça, c'est quand même une réalité nouvelle pour l'usager citoyen.
Alors, Jean-Marc Proust, peut-être Albi, tu veux dire un mot?
Juste un mot là-dessus, pour reprendre aussi ce qui a été dit. C'est vrai qu'il y avait des dysfonctionnements dans le système avant,
Mais ce qui change aujourd'hui, c'est que, vous n'avez, je ne veux pas paraître nostalgique à tout prix, mais vous aviez un problème qui pouvait être résolu, comme ça l'est le cas dans un call center aujourd'hui, dans 99% des cas, mais dans le cas que j'ai cité tout à l'heure de Monique, les 1% restants, si vraiment le problème n'est pas gérable par le call center, il y a toujours la possibilité d'aller à l'agence EDF-GDF, qui n'existe plus aujourd'hui, sous une autre forme. Des boutiques EDF, il y en a peu, des boutiques GDF Suez ou Dolce Vita, il y en a très peu, des boutiques Poeo, il n'y en a plus. Donc vous trouvez, quand vous êtes dans des situations particulières, et c'est on est dans une logique d'aménagement du territoire aussi, la perte de sens fait que l'absence de l'interlocuteur de proximité perturbe les consommateurs.
Cela dit, Jean-Marc Proust, on pourrait se demander s'il n'y a pas là une responsabilité du distributeur et du concédant, en fait. Et du concédant, c'est-à-dire la collectivité territoriale concédante comme étant finalement celle qui est en situation de recomposer une information et une offre cohérente vis-à-vis du consommateur. Donc on pourrait presque vous renvoyer la balle en disant, effectivement, la libéralisation a segmenté le marché. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité politique des collectivités territoriales de recomposer l'offre et d'avoir cette action sur la remise en cohérence de la chaîne des opérateurs?
Nous sommes autorité concédante d'un concessionnaire dont le capital est détenu très très largement par l'État, qui a été longtemps à 100% détenu par l'État. C'est pas toujours facile, quel que soit le sujet, pour des collectivités territoriales d'engager un bras de fer avec l'État. Plus-t-il représenté par une entreprise publique. Si je reprends sur l'aspect purement distribution, ce qui s'est passé après la tempête Klaus en février dernier, là on sort du consommateur, on revient sur le réseau, c'est brusquement nos élus qui, dans la presse locale, etc., se retrouvent à gueuler parce que les agences EDF-GDF ont disparu de leur territoire, que les centres de décision, alors si je prends le sud-ouest, vous êtes dans les Pyrénées-Atlantiques, vous êtes dans le Lot, etc., le centre de décision c'est à Bordeaux, et on vous envoie des agents qui font partie de la force d'intervention rapide du RDF, ils appellent la Fire. Ils arrivent, ils connaissent pas le réseau, et c'est les élus qui les prennent par la main et qui leur disent voilà le poste, le transport à tel endroit, etc. Donc, on peut se poser la question évidemment du rôle des collectivités concédantes. Je crois que d'une certaine manière, il suffit de voir le montant des investissements qu'elles font sur le réseau aujourd'hui. Elles ont pris la mesure d'un désinvestissement progressif qui semble-t-il est en train de changer de RDF dans la présence locale, c'est elle qui investit dans les réseaux, à tel point que l'autre jour j'entends un professeur de droit dire à un colloque, vu le montant des financements des collectivités locales sur les réseaux, on peut se demander si on a encore des contrats de concession, si on n'est pas dans les contrats d'affermage. Voilà, poser la question en ces termes-là, dans le monde rural, c'est les collectivités qui ont pris le relais d'un opérateur défaillant. Alors évidemment c'est un peu différent sur les questions de fourniture, mais faire le procès des collectivités locales quand le responsable principal c'est l'État derrière, c'est un peu difficile.
D'accord, merci. Monsieur Lafaye, Hervé Lafaye, donc on avait entendu un aspect un peu négatif du bilan d'ouverture du marché. Alors c'est vrai que vous avez une position complexe, puisque finalement on l'a bien entendu au cours de ces deux jours, vous êtes en situation de neutralité vis-à-vis du marché. Mais en même temps, vous êtes un opérateur, vous le disiez vous-même, vous fabriquez la place de marché. Donc quel est votre bilan de l'ouverture, de comment ça marche, où est-ce que ça coince sur ces deux points-là, hein, le consommateur et le CO2?
Alors, je vais remonter un peu plus loin que 10 ans, puisqu'en fait, l'ouverture pour le marché de gros que nous on regarde, puisque nous, on a 600 clients industriels pour accorder au réseau de transport et ensuite les distributeurs. Donc, c'est ce qu'on va appeler le marché de gros. Il est ouvert depuis 1996, depuis la première directive, pour les clients dont la consommation était supérieure à 100 gigawattheures, millions de kilowattheures. D'accord ? Et c'est une réalité depuis cette époque, c'est-à-dire que la plupart des clients industriels ont eu la possibilité depuis cette époque-là de mettre en concurrence leurs fournisseurs, et par un mécanisme, alors là, qui est différent aussi de celui de la distribution, puisqu'il y a séparation totale au niveau des contrats. Donc les industriels, ils ont un contrat d'accès au réseau qui signe avec nous, selon un tarif régulé, et ensuite ils font leurs achats, leurs marchés en France et en Europe. Et ça fonctionne depuis 1996. Alors bon, moi je pense de manière satisfaisante. Hein. On n'a pas parlé d'un acteur très important qui est la Commission de régulation de l'électricité, qui a été instituée au même moment par la loi et qui au fond le juge de paix de la bonne mise en œuvre de ce qu'a voulu le législateur. Hein. Et ben voilà, on n'a pas eu beaucoup de différends devant la Creux, et on en aurait eu si on n'avait pas joué ce rôle. Alors à la fois en mettant en place les mécanismes, et c'est vrai que c'était compliqué, parce que passer d'un système intégré et inventer des frontières là où elles n'étaient pas, mettre des compteurs là où ils n'étaient pas, séparer les systèmes d'information, séparer tous les processus de décision qui étaient intégrés, hein, depuis la planification, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire dans 20 ans, jusqu'à l'exploitation, les dépannages, etc. Bon, ça a été un très très gros travail qui a été accompli, et à mon sens, qui a donné aux clients ce qu'ils attendaient, c'était la possibilité de choisir. Alors après, l'évolution du marché leur a-t-elle donné véritablement cette possibilité, que ce soit notamment sur le prix? Ce sont des facteurs indépendants, et je crois qu'il faut faire attention aussi à ça, que quand on reprend ces 10 ou ces 15 années, il y a eu beaucoup d'autres évolutions qu'une simple volonté de déréguler, libéraliser, appelons-la comme on veut. Il y a eu Kyoto entre-temps. Donc on le voit bien qu'il y a des mécanismes qui se sont ajoutés au système précédent, qui se seraient peut-être ajoutés d'ailleurs qu'il y ait unbundling, dérégulation ou pas, qui sont ces mécanismes de promotion des énergies renouvelables et qui ont complètement changé la donne, qui sont aussi des mécanismes, je veux dire, politiques, économiques, qui sont qu'effectivement, cette régulation, par exemple, des tarifs. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'évolutions qui se sont superposées, donc c'est difficile, je crois, aujourd'hui, de discerner les effets des unes et des autres sur, au fond, le bilan que peut faire le consommateur. Alors, je vais aborder un autre point que je marque dans nous, ce qu'on appelle nos succès. Je reviens aux interconnexions. En France, du fait de la dominance d'EDF, je ne parle pas du monopole, je parle de la dominance, il y avait un enjeu très très fort à ce que les interconnexions puissent être accessibles aux autres producteurs européens pour venir challenger et faire des offres aux producteurs français. Et c'est ce qui a été fait. Et notamment, je ne sais pas si vous le savez, comme ces capacités d'interconnexion sont limitées, bien dans le rôle de RTE, il y a de les offrir, il y a des enchères à tous les opérateurs européens. Donc dans nos nouveaux rôles, hein, à la différence peut-être, hein, si vous connaissez un peu de ce que fait Aéroport de Paris, hein, et beaucoup de systèmes d'allocation qui sont un petit peu, par exemple, par le droit du grand-père, hein, c'est-à-dire par l'utilisateur précédent, ben nous, progressivement, on s'est mis et on organise, donc à échéance annuelle, mensuelle, journalière, des mises aux enchères de ces capacités d'interconnexion. Et ça...
Qu'est-ce que je veux dire techniquement? Ça veut dire quoi? Mettre aux enchères des capacités d'interconnexion? J'avoue que je...
Là, alors, je suis large. Je fais le parallèle. Je vais faire le parallèle. Imaginons qu'entre la France et l'Espagne, il y a une capacité d'interconnexion de 1000 MW. Je rappelle, la pointe en France, c'est 60 000 MW. C'est plus que ça, 90 000 MW, pardon, hein, donc 1000 MW. Et imaginons que pour équilibrer les marchés, il faudrait transporter 4000 MW entre France et l'Espagne. Donc il n'y a pas la capacité suffisante. À qui attribuez-vous cette capacité? Au début, il y avait ce qu'on appelle des contrats de long terme, parce qu'EDF exportait vers l'Espagne, et il avait ces contrats de long terme sur l'énergie, emporté un droit d'utilisation de la capacité. Et ça, ça a été cassé. Et aujourd'hui, pour pouvoir, si vous êtes un producteur allemand, que vous voulez aller faire une offre en Espagne et que vous puissiez acheminer, il va falloir que vous participiez à des enchères pour utiliser la capacité entre la France et l'Espagne. D'accord ? Donc c'est un exemple d'ouverture du marché, c'est-à-dire d'aller vers des mécanismes complètement non discriminatoires, là plutôt vis-à-vis des possesseurs historiques de ces capacités. J'en termine pour dire que le résultat de tout ça, c'est une augmentation très importante des échanges entre pays européens, de la variabilité de ces échanges, et on y reviendra, à mon sens, un facteur très favorable pour la promotion des énergies renouvelables quand on veut les transporter d'un bout à l'autre de l'Europe.
D'accord, merci beaucoup. Je note aussi, c'est vrai qu'on a tendance à parler ouverture du marché du point de vue du consommateur final, mais en fait, il y a l'ouverture du marché, si j'ose dire, en amont, qui est extrêmement importante, qui est l'échelle européenne dont il faudra reparler. Oui, monsieur Droguer, sur la même question. Mais sur ces deux aspects, hein, le consommateur et l'efficacité climatique.
Je vais peut-être vous étonner, mais j'ai un peu le même constat, enfin la même conclusion que mon ami Jean Proust.
Parlez bien dans le micro.
Le bilan d'ouverture des marchés en France, enfin dans le contexte français, est négatif, est plutôt négatif.
Il est excellent, au contraire, personne n'a bougé.
Non, est négatif. Est négatif. Alors là, je dirais parce que quelque part, le système, enfin l'organisation du marché français, ne nous a pas laissé faire notre métier. Et je m'explique. On a un système qui matche à l'envers, puisqu'en fait, l'idée de la Commission européenne, c'était de créer un prix, enfin un marché, avec un prix de l'énergie. Et cette dérégulation, elle était bien évidemment au niveau du marché gros, donc on dérégule le marché amont, on va dire, du marché gros. L'idée est de créer un prix de l'énergie qui permette aux investisseurs d'investir dans la production, et ainsi assurer la sécurité d'approvisionnement de l'Europe. Quelque part, c'est quand même bien, enfin, c'est bien ficelé, et il faut quand même avoir ça en tête, parce que c'est pas à la Commission des gens qui ont des ultra-libéraux qui veulent à tout prix déréguler pour déréguler. La mission première de l'organisation du marché européen de l'énergie, enfin de l'électricité, c'était d'assurer la sécurité d'approvisionnement de l'Europe, et donc de créer les signaux d'investissement, sachant que les investissements se font. Alors, en France, c'est un cas particulier, mais plutôt par des opérateurs privés. De ce point de vue, on peut considérer que ça a fonctionné, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup d'investissements dans la production en Europe. En France, sur les 14 gigawatts en construction, il y en a 9 actuellement qui sont portés par des opérateurs privés. Poweo, E.ON France, Atel, enfin, Direct Énergie d'ailleurs s'y met. Aujourd'hui, les cycles combinés à gaz. Je ne parle même pas du renouvelable, où là on a énormément d'opérateurs. Mais c'est des signaux de prix qui sont différents parce qu'ils sont subventionnés. Mais sur les vrais signaux de prix du marché, donc de ce point de vue, ça a fonctionné. On va dire du côté amont. Et ça, c'est plutôt une bonne chose que les investissements se font et qu'il n'y aura pas des problématiques très très difficiles à gérer. Et finalement, pour les consommateurs, on ne leur parle pas beaucoup de sécurité d'approvisionnement, mais c'est quand même ce qui devrait les inquiéter le plus. En revanche, sur la vague, on n'a pas fait notre métier. Pourquoi ? Parce qu'on a dérégulé donc ce marché de gros, mais on est resté dans un système régulé de prix à l'aval. Et donc, si on régule que on dérégule que un des deux côtés, ça ne peut pas fonctionner. Et pourquoi ça ne fonctionne pas ? Parce qu'à l'aval, quelque part, la dérégulation du marché de gros fait que le prix de gros se cale, comme il se fixe à un niveau régional, donc on va dire c'est la plaque, je résume très grossièrement, franco-allemande, se forme sur le prix marginal, donc du coût de la centrale la plus onéreuse. Donc la centrale la plus onéreuse, si on veut investir dedans, il faut que le prix se fixe sur le prix de cette centrale. En Europe, ce sont des centrales thermiques, et donc liées au prix du combustible. Donc on a des prix qui sont plutôt attirés vers le haut, enfin à la hausse. Et donc ça crée indéniablement cette hausse des prix gros, une rente pour les acteurs qui ont des coûts plus bas, donc les opérateurs nucléaires. Et donc cette rente nucléaire, elle est redistribuée en France à travers le tarif réglementé. Ce qui est légitime, hein. Les Français ont fait le choix du nucléaire, donc l'avantage compétitif du nucléaire doit être dans les prix. Et en France, ça se fait dans les prix régulés. Donc pour un nouvel entrant ou pour un marché qui s'ouvre à l'aval, c'est impossible de raisonner dans ce marché. Donc c'est là où, peut-être on viendra peut-être après, mais très, très rapidement, on y reviendra après, il y a deux solutions dans ce cas-là. La première solution, c'est on dit, on va déréguler l'aval, politiquement, supprimer les tarifs réglementés, c'est compliqué. Alors il y a une façon de le faire, ce serait de supprimer le tarif et de rendre aux Français l'avantage nucléaire sur la facture. C'est-à-dire qu'il y aurait une sorte de CSPE négative. La CSPE positive, c'est pour financer leur renouvelable, puis vous auriez une CSPE négative qui vient compenser le nucléaire. Donc sur votre facture, vous auriez en haut, vous auriez le prix de marché que vous payez, et puis vous auriez moins avantage nucléaire, plus CSPE, et effectivement, pas plus taxe par heure sur l'électricité, ça ne marche pas. Et donc ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, c'est celui qui visiblement a aujourd'hui... dire la primeur des politiques, c'est paradoxal, c'est de dire on reste avec un système régulé à l'aval et on va re-réguler l'amont. Donc on va faire un système de régulation à l'amont, c'est-à-dire où nous opérateurs, on aura accès à un marché de gros régulé en fait un accès régulé à la base nucléaire sur la base d'un prix qui sera fixé par un régulateur. C'est ce qu'on appelle, enfin ce sont les conclusions du rapport Champsaur. Donc l'idée du rapport Champsaur, d'ailleurs je pense que d'un point de vue économique, il préférait la première solution, enfin celle que je disais avant de tarif de CSPE négatif. Mais pour des raisons politiques, c'est beaucoup plus simple de réguler l'amont que de déréguler l'aval. Donc c'est comme ça que ça va fonctionner. Alors là, effectivement, dans ces conditions, il va se créer effectivement une concurrence. Si les choses se font au bon prix, ça va créer effectivement un appel d'air. En régulant l'amont, quelque part, on va ouvrir le jeu à l'aval dans le cadre, dans un contexte de tarif réglementé qui va devoir évoluer. Donc là où je dis que les avantages de la libéralisation n'ont pas joué pour le client, et c'est vrai aujourd'hui, c'est que nous, ce qu'on veut offrir, je l'avais dit tout à l'heure, ce sont davantage de services, davantage d'innovation et évidemment des offres qui permettent d'appréhender différemment sa facture. Parce que quelque part, la facture d'électricité, ça reste le prix fois le nombre de kilowattheures consommés. Sur le prix, on l'a dit, monsieur l'a dit, on va pouvoir faire un discount, je ne sais pas, de 5%, c'est pas très important. L'important pour nous, c'est de jouer sur le nombre de kilowattheures. Et là, si on joue un peu sur le prix et sur le nombre de kilowattheures, notre promesse, c'est de faire baisser le prix de la facture, et le plus possible. Donc c'est là où nous, aujourd'hui, on ne joue pas ce rôle, parce que le marché aujourd'hui tel qu'il existe, l'organisation, ne nous permet pas de le faire. Donc c'est pour ça que le bilan est quand même négatif à l'aval, et je dirais positif sur la production, puisque on investit et d'autres investissent, donc ça prouve bien que le marché qu'a voulu créer la Commission européenne, finalement, il atteint quand même son objectif.
Merci beaucoup. Hervé Lafaille, vous vouliez rajouter un mot, puis après Claude.
Justement, non, mais j'allais redire ce que disait M. Droguer. Simplement, il y a évidemment un choix politique. Moi je vais, là, j'enlève ma casquette RTE, qui est un choix protectionniste, comme ça, parce que si on change d'échelle et qu'on regarde à l'échelle européenne, aucun de ces raisonnements ne tient, parce que le producteur qui se voit capter sa rente pour des raisons locales, quand il est en concurrence avec d'autres producteurs, ben ça ne lui va pas du tout. D'accord ? Donc en fait, la seule question là-dedans, c'est une question de changement de maille et de protectionnisme. Moi, je le dis clairement comme ça. Parce que le résultat aurait dû être que le prix augmente en France. Qu'il soit redistribué, c'est une autre question. Donc veut-on ça ou pas ? Et je pense que c'était le résultat théorique, mais certainement pas souhaité, bien qu'attendu.
Claude, vas-y, sans oui. Micro, hein.
Oui, tout à fait. Non, mais je suis bien content.
Tu dis d'où tu parles?
Oui, oui, Claude Roland, bout de construction. Ça n'a rien à voir. Mais donc, je suis bien content de l'explication de M. Droguer, parce qu'on essaye de s'expliquer depuis une journée pourquoi le marché ne s'est pas complètement ouvert sur l'électricité, notamment en France, mais il ne peut pas s'ouvrir. Aujourd'hui, on s'est donné depuis une dizaine d'années les capacités à segmenter les métiers, comme le demandait l'Europe, et permettre cette ouverture de marché, sauf qu'on a très bien montré hier dans une première planche, un premier graphique, le prix aujourd'hui de l'électricité administrée est très inférieur au prix du marché. Donc globalement, on ne peut pas avoir un marché qui s'ouvre. C'est pas possible. Sauf sur des marchés de niche, comme vous l'avez expliqué, où vous allez produire sur les heures de pointe, etc. Parce que là, EDF n'a pas obligatoirement intérêt à produire plus, à avoir plus de capacité de production. Mais globalement, ça fait une journée qu'on essaie de s'expliquer pourquoi ça s'est pas ouvert, ça ne peut pas s'ouvrir, c'est pas possible.
Jusqu'à maintenant, la survie, on fait de la survie, ouais. sur la zone commerce, hein, je l'ai dit, parce qu'il y a eu des mécanismes de, on va dire, de provisoire. Le Conseil de la concurrence, par exemple, a mis aux enchères des capacités nucléaires. Ouais. On les achète, mais on les achète dans des conditions déplorables. Donc, on vit comme ça. Par ailleurs, on a fait quelque chose, là, avant, j'ai oublié de le signaler, mais qui peut être intelligent, c'est une des solutions, c'est que comme nous, on est producteurs de pointe, on a passé un accord avec EDF, où on a fait un swap, pointe contre base. C'est-à-dire, on leur donne, sur notre centrale de 400 MW, ils ont un droit de tirage de 160 MW pour l'utiliser dans les périodes de pointe, parce que EDF en a besoin, et en échange, on a accès à la base nucléaire. Là, c'est un deal intelligent, ça, ce sont des deals industriels. Mais cela dit, aujourd'hui, ce n'est pas la tendance, malheureusement.
Donc aujourd'hui, on s'est donné les moyens pour avoir un marché qui pourrait s'ouvrir, sauf que tant que les prix ne se régulent pas, on n'y arrivera jamais. Et hier, on regardait ça avec mon voisin, on regardait la courbe sur laquelle on est revenu. En Italie, ça s'est très largement ouvert, mais le prix aujourd'hui moyen de la vente d'énergie électrique en Italie est supérieur au prix moyen. Donc là, il y a une capacité de faire jouer le marché. Et tant qu'on ne sera pas dans ce modèle-là, on n'y arrivera jamais. Sur des marchés de niche comme le vôtre, voilà. Et sauf sur des services particuliers, à des clients particuliers.
C'est là qu'il y a, un terme qu'on entend beaucoup en ce moment, mais qui est lié à la taxe carbone, c'est le signal prix. Mais le vrai signal prix, il doit être sur le prix de l'énergie, pas sur une taxe.
Tout à fait.
C'est ça le problème.
Tant qu'on ne fera pas vraiment payer le prix du carbone, ben on ne changera pas les comportements.
Juste avant de laisser un mot à Pierre Radan, Nicolas Garnier qui a été à deux reprises accusé d'être pistonné et d'illustrer d'illustrer un dysfonctionnement plus global du marché, c'est-à-dire la question de l'information asymétrique, effectivement, bon, qui est une grande question quand même du fonctionnement du marché, au-delà même de la question du tarif administré. N'y aurait-il pas de tarif administré que pour autant cette question de l'information asymétrique demeurerait. Donc, en quoi êtes-vous pistonné?
Ce que je voulais surtout réillustrer, parce qu'au risque d'être mal compris, j'ai eu le malheur d'être transparent sur l'histoire des certificats verts, parce que ça a été une bataille de 2 ans d'avoir les certificats verts, ce qui était quand même cohérent avec la démarche qu'on avait entreprise, sinon on avait l'air d'idiot. Quoi. Je veux dire, on ne pouvait pas d'abord dire on avait un tarif qui est meilleur, on dit qu'on a des énergies renouvelables, mais je n'ai pas de preuves. Donc, c'est juste quand même par rapport au débat qu'on a eu ce matin sur la part de régulation ou la part de l'État ou d'efforts collectifs, que j'appelle moi SCSPE dans notre démarche, et la part de marché. Et c'est vrai que la démarche a consisté, je reviens sur photovoltaïque parce que vous avez rebondi, le raisonnement est le même pour photovoltaïque, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le marché choisit son prix, mais que derrière il y a un mécanisme qui dit il y a une compensation, la compensation elle est complète, c'est-à-dire que si le photovoltaïque est racheté 55 centimes d'euros, il faut rappeler que l'opérateur EDF, on va dire un opérateur X qui fait le photovoltaïque est racheté 55, ça veut dire que EDF qui rachète 55 est compensé entre 55 et son prix de production, donc quand EDF revend, même avec un tarif si haut, il ne doit pas revendre à 55, puisque lui, il a été compensé par vous et moi. Donc, ce qui est intéressant dans cette démarche par rapport au débat de ce matin, c'est comment concilier des logiques de marché et des politiques gouvernementales qui apportent un bonus, qui au passage n'est pas un bonus généreux, c'est une mutualisation sur l'ensemble des populations. C'est juste pour dire qu'il y a sur le tarif, hein, pour reprendre les propos de Pierre, sur la question du tarif, il n'y a pas eu de piston dans le sens où il y a eu un piston dans le sens où on a réussi à démontrer qu'on pouvait avoir ce prix-là, et clairement, oui, il y avait un affichage, et je vous l'ai dit, donc je ne vous ai pas menti, mais on essayait de démontrer que la logique, c'est effectivement que l'énergie renouvelable, dès lors qu'elle est dans un marché, mais compensée par une aide publique, a le prix initial et pas le prix de production. Et c'est intéressant, enfin, par rapport au débat qu'on a eu ce matin, sur comment faire coexister une logique de, comment tu disais, de Gosplan et de marché. Et c'est là où le consommateur a un rôle. D'ailleurs, on n'a pas abordé la question sociale. Moi, j'aimerais peut-être qu'on l'aborde, puisque c'est quand même un élément essentiel du marché.
Consommateur citoyen.
Voilà. Il y a le consommateur citoyen, puis il y a le consommateur qui ne peut pas, acheter son électricité. Il faut quand même reconnaître que l'ouverture des marchés a quand même eu tendance à renforcer un comportement qui était pas très présent quand même dans la décennie précédente, qui était la fermeture des compteurs. Donc on a aujourd'hui, sur la question de la fermeture des compteurs, un vrai sujet. Aujourd'hui, il y a une période intermédiaire, hein, c'est-à-dire que EDF, pendant longtemps, quand ils étaient seuls, avaient une politique de fermeture des compteurs qui était une logique quand même relativement soft. Il y a eu un moment donné où on a cru que on rentrait dans le marché d'une manière un peu brutale, puisqu'on s'est vu à des compteurs qui commençaient à fermer. Et puis on a introduit deux mécanismes, on l'a évoqué ce matin, le tarif de première nécessité, plus un autre mécanisme qui est le FSL. Simplement, le tarif de première nécessité, il faut quand même rappeler que c'est un tarif qui mériterait aujourd'hui d'être revisité du point de vue en particulier de la prévention de la précarité énergétique. C'est-à-dire que le TPN, aujourd'hui, il vous donne accès à une électricité moins chère, à une puissance faible, mais à aucun moment on se pose la question de ce que vous consommez dans le logement. C'est ça qui est dramatique dans le TPN, c'est aussi dramatique dans le FSL, pour balayer devant notre porte. C'est-à-dire qu'on demande à la collectivité locale d'assumer une charge qui est de payer la facture des pauvres, pour faire simple, et à aucun moment on essaye de faire baisser la facture des pauvres. On essaye juste de payer la facture à leur place. Pour faire très simple, vous arrêtez de payer votre facture d'électricité, au bout d'une relance, deux relances, trois relances, on vous dit il faut remplir ce dossier, remplissez le dossier, envoyez-le au FSL, et dans le dossier on ne vous demande pas votre consommation, on vous demande votre revenu. Et on va vous rembourser votre facture en fonction de votre revenu. Ce qui veut dire qu'à aucun moment donné, on se pose la question de ce que vous consommez. Et donc, 3 mois plus tard, on retrouve la même personne. Donc là, il me semble qu'il y a aussi un débat sur la précarité énergétique qu'on n'a pas eu lieu. C'est le marché a-t-il changé la donne sur la précarité énergétique? Moi, je serais tenté de dire, j'ai cru que oui, puisqu'on avait introduit des outils intéressants
tels que le TPN, tels que etc. Et au final, la réponse est non, puisque finalement, on met un pansement sur une jambe de bois avec ce genre de dispositif.
Ça renvoie à la distinction que vous faisiez précédemment entre le kilowattheure de service public, si je caricature, et le kilowattheure sur lequel il peut y avoir de la marge de manœuvre, des gains d'énergie.
Puisque j'ai peur d'avoir grillé mon temps de parole, j'avais une autre question à vous poser. Tout à l'heure, vous avez fait un sondage, parce que c'est intéressant. Est-ce que dans la salle, est-ce que combien savent la consommation de leur voiture? Vous pouvez lever la main, ceux qui savent la consommation de leur voiture.
En litres d'essence,
au 100 km, bien sûr. Ça va? Et maintenant, combien savent la consommation de votre logement? Attention, j'en prends un, je vais poser la question de la consommation. Voilà, merci.
Bien, merci beaucoup. Hervé, vous voulez rajouter un mot?
On ne connaît pas nos consommations, c'est ça.
On sait combien on paye, donc on sait la consommation.
Au-delà de la discussion qu'il y a, et pour revenir à ces histoires de concurrence, et pour revenir, si vous voulez bien, à peut-être des portes que je vais enfoncer. Des portes ouvertes que je vais enfoncer. La concurrence, on a tous appris, c'est bien aidé quand on a un marché en croissance. Or, malgré peut-être des efforts insuffisants de maîtrise de la demande en énergie et en électricité, les taux de croissance de l'électricité depuis plusieurs années en France, c'est très faible. C'est à quelques points au-dessus du PIB, quoi. Donc on n'a pas première caractéristique fondamentale qui fait que c'est difficile d'ouvrir un marché qui croît peu. D'où les niches, d'où bon. Hein. Deuxièmement, à l'amont, en général, un marché il s'ouvre quand il y a une offre qui est capable de concurrencer, alors soit parce que, en général, par des caractéristiques économiques supérieures, puisque là, le produit, il est standard et vous ne pouvez pas le différencier par le produit, qui est la prise. C'est toujours la même chose, d'accord? Or, ça n'a pas eu lieu. Et c'est même le mouvement inverse, et que je ne renie pas, puisque on veut subventionner une concurrence d'une énergie qui est plus chère et qui est les renouvelables, pour d'autres objectifs que je ne dénigre pas, d'accord? Mais on voit bien que quand on prend ces fondamentaux du marché de l'électricité, c'est difficile d'installer des choses, quelles que soient les régulations, les re-régulations, les protectionnismes, etc. Donc il faut avoir ça en tête. Et le seul facteur qui fait bouger aujourd'hui, c'est effectivement la volonté Kyoto renouvelable.
Oui, c'est très important, effectivement. Au fond, qu'est-ce qui permet de différencier, si j'ose dire, un kilowattheure d'un autre, Pierre, alors sur cette lecture un peu pessimiste, enfin pessimiste, enfin, je dirais optimiste en amont et dubitative ou, disons, un peu inquiète en aval.
Non, mais je crois qu'il faut être loyal sur l'évolution de ce qui s'est passé depuis quelques années. Il y a des points positifs, il y a des choses qui n'ont pas bougé, il y a des points négatifs. Et bon, moi, je vais vous faire ma petite liste. Un point positif absolument indispensable, c'est passé à l'échelle européenne. Et c'est le passage à l'échelle européenne qui a été le déclencheur, et de ce point de vue-là, le résultat a été atteint, et c'est extrêmement positif. Deuxième point, Nicolas nous l'a dit ce matin, ça a été quand même un réveil des acteurs. Ça pionçait trop. Donc c'est quand même bien que le sujet a été réveillé. Le troisième point, qui n'a pas été totalement abouti, parce qu'il n'a pas été conceptualisé, mais qu'en fait, la vraie substance de cette affaire-là, c'est qu'il faut que dans notre pays, sur ces sujets-là, il y ait un débat sur les objectifs, que les contrats, compte tenu du fait que les objectifs bougent avec le temps, que les contrats puissent être renégociés, redéfinis entre des acteurs, et que derrière ça, qu'on est clairement dans un système qui est un système régulé. Le mot dérégulation a été un crime en termes de langage. Bon, et donc, si on va vers un système qui est comme ça, des objectifs, des contrats et une régulation, alors avec du statut de propriété qui sera privé pour les uns ou public pour les autres, c'est pas ça le plus grave. Le plus important, c'est d'être dans cette logique-là.
Le goulot d'étranglement du tarif administré qui a été pointé par Christophe Droguer, qu'est-ce que tu en penses?
Oui, mais alors là,
on est-ce bascule. Que c'est un avatar attends, technique
attends,
ou c'est...
Attends, là, on bascule sur autre chose. D'abord, c'est assez conforme à la manière dont la finance a pris une place surdimensionnée dans notre société, c'est-à-dire qu'on nous a appelé ouverture du marché alors avec de la concurrence et plein de mots comme ça, une réalité physique qui n'a changé en rien. Je prends le cas du tuyau pour l'Espagne. S'il y a un tuyau pour passer 1000 mégawatts entre nous, je m'en fous de savoir quel est celui qui arrive le premier à passer sur le tuyau de 1000 mégawatts. Le problème, c'est que le tuyau, il fait que 1000 mégawatts. Donc, on a quand même un petit peu dans cette affaire-là largement oublié la réalité physique, je dirais la réalité, je dirais d'ingénieur, la réalité matérielle du sujet, où on est sur des sujets sur lesquels on a, et on l'a vu hier et ce matin, on a une réalité physique de monopole naturel qui est quand même quelque chose de fort. Alors, on peut jouer la tournante sur les contrats, sur une réalité physique inchangée. Pourquoi pas ? C'est très drôle. Mais honnêtement, c'est pas, pour le coup, l'essentiel du jeu. Le point derrière, quand même, et c'est la conséquence, c'est quand même une inefficacité assez totale en ce qui concerne les éléments économiques dont on parlait tout de suite. Alors que l'élément économique avait été, si je puis dire, vendu comme était le moteur du système. C'était la concurrence qui allait baisser les prix. On s'aperçoit d'ailleurs que le marché de l'énergie dépend de considérations géopolitiques, on n'en a pas discuté, mais ces considérations géopolitiques sont quand même terriblement déterminantes, et que cette idée que l'ouverture du marché allait inévitablement réduire les prix était quand même, je dirais, surdimensionné pour deux raisons. D'abord, dans un marché privé, c'est la loi du marché privé, l'actionnaire se rémunère, et il se rémunère plus que l'État se rémunérait. Le deuxième point derrière, c'est que le système inclut une part de risque, inclut du flottement, et le flottement débouche sur des surcoûts. Et donc chacun se protège un petit peu dans ce jeu-là. Et donc on a plusieurs facteurs qui sont allés... je ne dis pas que le marché a augmenté les prix, je ne dis pas ça. Mais je dis que cet objectif-là qui avait été mis sur la table, en fait, il n'est pas du tout atteint.